Polanski et son œuvre incarnent, me semble-t-il, de manière exemplaire tous les phénomènes que vous étudiez dans cette série de journées d'études sur les transferts à l'intérieur de l'Europe entre différentes filmographies et nationalités. Et il aurait pu, Polanski, illustrer au fond d'autres journées d'études sur d'autres pays européens. Je rappelle brièvement que c'est un cinéaste polonais qui est né par hasard à Paris, qui a travaillé en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, en République tchèque, au Danemark, en Espagne et bien sûr en Pologne. Je laisse de côté les États-Unis puisque ça n'est pas notre sujet. Donc sa carrière, elle est caractérisée par tous ses déplacements, ses dépaysements, ses exils successifs, dus parfois à la grande histoire, et notamment à la fin des années 50, au début des années 60, lorsqu'il désire fuir la Pologne sous domination soviétique, ou par son histoire personnelle, avec notamment sa fuite, cette fois des États-Unis, à la fin des années 70, après avoir été reconnu coupable de viol sur mineur et avoir purgé une peine de 42 jours de prison, fuite motivée par sa crainte d'être condamné une deuxième fois à une seconde peine. Donc c'est un cliché qui est associé à l'œuvre de ce cinéaste, hein, que cette mobilité, cette itinérance, je pourrais vous donner les références, mais comme je sais que j'ai peu de temps, je vais vite. Voilà, toutes sortes de formules qu'on peut trouver chez certains critiques le concernant. Son caractère apatride, ça sont des citations, ça c'est Prédal hein, qui dit que c'est le seul transnational dans les années 60 par opposition à Vajda, Forman, Jocelyny, Sora, Schlendorf et d'autres. Ça c'est dans le programme de la rétrospective que la Cinémathèque française lui a consacré en 2017, où Gilles Esposito explique qu'il a donné ses lettres de noblesse au genre, plutôt d'ailleurs décrié de l'euro-pudding, et il le qualifie d'éternel exilé. Donc ce sont vraiment des étiquettes qui lui collent à la peau pour des raisons d'ailleurs objectives, réelles, qui sont ces multiples déplacements tout au long de sa vie et de sa carrière. Alors je voudrais partir d'une phrase qui est la première phrase de son autobiographie, Roman par Polanski, qui est parue pour la première fois en 84. Cette première phrase, c'est la suivante. « Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, la frontière entre le réel et l'imaginaire a toujours été désespérément brouillée. » Alors, je parle évidemment de cette phrase, parce que même si le terme de frontière dans cette incipit est employé dans un sens figuré, le concept de frontière et le brouillage de cette frontière, il me semble que c'est particulièrement pertinent, ces deux notions, frontière et brouillage des frontières, pour définir la vie et les films de Polanski, en reprenant cette fois le terme dans un sens purement spatial et géographique, même si on pourrait sûrement le décliner aussi, par exemple, dans son traitement des genres cinématographiques, hein, ce franchissement constant des frontières. Et encore un mot sur cette autobiographie sur laquelle je me suis vraiment appuyée, parce qu'on peut en penser ce qu'elle veut, je la crois sincère, ne serait-ce que par le côté d'ailleurs très déplaisant quelquefois que Polanski donne à sa personnalité. Voilà. Mais je suis partie du principe que je la croyais, cette autobiographie. Et donc, quand on la relit, cette autobiographie, ce que j'ai fait, c'est vrai, avec un grand plaisir pour la troisième fois pour vous aujourd'hui, c'est très frappant, surtout donc aujourd'hui, presque 30 ans après la chute du mur et plus de 20 ans après la création de l'espace Schengen, de voir l'importance que revêt la possession d'un passeport valide dans les années 60, 70, 80, on a complètement oublié. Et Polanski est constamment donc soucieux de savoir si son passeport est en règle. Pendant le déjeuner, je vous raconterai comment ça se passe, par exemple, au Festival de Cannes en 68. Mais ça, je vous le garde pour un petit comité. Dernière remarque d'introduction, qui est une sorte de passage obligé, surtout si on s'intéresse à la question de la frontière, donc de la clôture, le rappel inévitable de l'expérience faite par Polanski enfant d'avoir été donc enfermé à l'intérieur du ghetto de Cracovie, expérience qui lui inspirera 60 ans plus tard la reconstitution de cette situation dans Le Pianiste, et cet enfermement dans le ghetto de Cracovie, il le raconte aussi dans son autobiographie, lui donne l'occasion de s'en échapper clandestinement, de faire le mur, pour aller dans la vraie ville, au dehors, et pour aller au cinéma. Donc ces premières expériences de cinéma, elles sont liées aussi à la transgression et à la fuite hors de cet espace clos. Donc une expérience de l'enfermement qui est probablement déterminante pour la représentation de l'espace dans ces films, ce qui serait un autre sujet, et notamment pour ceux qu'il tourne pour la première fois à l'étranger, c'est-à-dire Répulsion en Grande-Bretagne en 65, ou Le Locataire à Paris en 76. Donc je me limite aujourd'hui à Polanski et la Grande-Bretagne, et ça m'a posé tout de suite une question qui est une question sur laquelle évidemment on autour de laquelle on tourne, qui est la question de la nationalité d'un film. Voilà, c'est vraiment très très discutable. Et voilà, il y a des définitions juridiques, économiques, culturelles, si on croit à ce genre de définition. Donc, pour établir un corpus des films britanniques de Polanski, la première possibilité, c'était de s'en tenir aux films qu'il a majoritairement tournés et qui ont été produits en Grande-Bretagne, même si c'était en partie grâce à de l'argent américain. Donc là, on distingue un ensemble de quatre films. Répulsion, en 65, qui est aussi son premier long-métrage hors de Pologne. Cul-de-sac en 66, Le bal des vampires en 67 et Macbeth en 71. Alors, quelques mots sur le contexte justement dans lequel Polanski s'installe en Grande-Bretagne, donc au milieu des années 60. Il a 31 ans, il s'est d'abord installé à Paris. Il est convaincu que son avenir, ça je cite toujours le biographe, s'il en a un, est à Paris. D'abord, il parle déjà plus ou moins bien le français, il est né à Paris, il a cet attachement à la France, et puis c'est l'apogée de la nouvelle vague, et il a le sentiment que de grandes opportunités s'offrent alors à un jeune cinéaste de travailler librement. Et c'est aussi à Paris, au début des années 60, qu'il fait une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière, celle de Gérard Brache, qui sera ensuite son co-scénariste pour 9 films. Donc, début des années 60, et là, malgré la notoriété internationale que lui a valu son premier long-métrage tourné en Pologne, Le couteau dans l'eau, je vais vite, mais prix de la critique à la Mostra de Venise en 62, nominé aux Oscars comme meilleur film étranger, obtenant le BAFTA Award du meilleur film étranger, faisant la couverture de Time Magazine, donc il y a vraiment une notoriété importante que lui vaut ce film, il ne parvient pas à Paris, à monter ce qui deviendra Cul-de-sac, qui est son premier scénario coécrit avec Brache. Et c'est aussi donc au début des années 60 qu'après la présentation du Couteau dans l'eau au Festival de New York, il décide d'apprendre l'anglais, à la même époque que François Truffaut, mais avec beaucoup plus d'efficacité, je pense, de résultats. Donc il est fauché, il n'a pas un rond, il achète la collection complète des disques linguaphones et il se met tout seul à l'anglais. Mais ce qui est déterminant, c'est la rencontre en janvier 64 à Munich d'un Polonais naturalisé américain, Jane Gutowski, qui vit à Londres et qui lui propose, je cite toujours l'autobiographie, une manière d'association producteur-réalisateur à longue échéance, mais lui certifie que Londres est l'unique endroit au monde où ils pourront la mettre sur pied. Donc c'est cette rencontre avec Gutowski qui donc conduit Polanski à partir pour Londres. Alors Gutowski essaye de trouver des financements à Londres pour tourner ce qui sera plus tard Cul-de-sac, mais qui s'appelle à l'époque Si Cattleback arrive. En vain, il ne trouve aucun financement, et il finit par contacter une petite société de production et d'exploitation de films porno soft, The Compton Group, qui veut sortir un peu de cette catégorie du porno soft, qui refuse Si Cattleback arrive, que ça n'intéresse pas du tout, mais qui commande à Polanski via Gutowski un film d'horreur. Et Polanski et Brache vont écrire le scénario de Répulsion en 17 jours. Donc ça, c'est le premier film britannique de Polanski. Suivront Cul-de-sac, un an plus tard, donc l'adaptation enfin réalisée de ce scénario de Si Cattleback arrive, avec toujours le Compton Group, et puis Le bal des vampires, qui est un film financé en grande partie par une société américaine, Filmways, mais dont l'acteur principal, Jack McGowan, je suis désolée, mon accent est pire encore que celui de David, dont l'acteur principal est irlandais, et le film est juridiquement parlant une production britannique. Polanski a alors le statut de résident permanent au Royaume-Uni et il est affilié aux deux grands syndicats professionnels du cinéma britannique. Donc le film est tourné en partie pour les extérieurs dans les Dolomites, mais il est aussi tourné dans les studios MGM d'Elstree au nord de Londres. Et puis quatrième film de ce corpus, Macbeth, qui est un film américano-britannique, puisqu'il est produit par Playboy, donc l'argent est tout à fait américain, mais aussi il y a une petite structure qui est créée exprès pour l'occasion par Polanski avec un autre ami juif autrichien installé à Londres, la Caliban Film, avec cette résonance shakespearienne qui est choisie évidemment pour l'occasion. Donc quatrième film de cette première possibilité d'envisager un corpus britannique dans l'œuvre de Polanski. Mais ça n'est pas la seule possibilité, puisque j'ai bien relu l'appel à communication avant de me lancer. La question de l'adaptation littéraire était aussi considérée comme pouvant présenter un intérêt justement au titre de ces transferts d'inspiration à l'intérieur du continent européen. Alors si, là c'est vrai que c'est la l'avantage de faire ce genre de communication, je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça avant d'y réfléchir, c'est que si on regarde l'œuvre de Polanski, bon, il y a un certain nombre de scénarios originaux, j'ai déjà cité Répulsion, Cul-de-sac, Le bal des vampires s'en est un aussi. On pourrait citer d'ailleurs les autres collaborations avec Brash, hein, Watt ou Pirate ou Frantic, Chinatown, qui est un scénario original aussi, pas avec Brash. Mais, bon, donc il y a beaucoup de scénarios originaux, mais il y a aussi énormément d'adaptations. Alors, ces adaptations, ce sont très souvent des romans ou des pièces de théâtre. Je les cite rapidement, vous verrez vous-même à quel film ensuite ça donne lieu. Pour les romans, Alra Levin, Topor, Bruckner, Pérez Reverté, Delphine de Vigan, Robert Harris. Pour les pièces de théâtre, Ariel Dorfman, Yasmina Reza, David Ives. Donc, des œuvres littéraires d'auteurs plus ou moins connus et dont la qualité littéraire, précisément, est sinon discutable pour certaines d'entre elles, du moins en attente d'un jugement que la postérité leur donnera ou non. Donc une masse comme ça d'inspiration dans la littérature de production contemporaine. Bon. Mais si on regarde les seuls films de Polanski adaptés d'œuvres du patrimoine, de grands classiques de la littérature mondiale, eh bien, on en tout cas appartient vraiment au canon, hein, parce que, en fait, je suis comparatiste, t'as dit d'être moderne.
Oui,
je suis
comparatiste.
Voilà.
Oui.
Voilà, on a ce patrimoine mondial, eh bien, il y en a trois. Macbeth, en 71, Tess, en 79, et Oliver Twist, en 2005. Et là, tout à coup, m'est apparu, je suis un peu lente, voilà, qu'il y avait quelque chose qu'il me paraît impossible de considérer comme une coïncidence. C'est-à-dire que la littérature britannique comme source d'inspiration, la grande littérature britannique, je veux dire vraiment, oui, cette littérature patrimoniale, reviennent comme, voilà, comme une sorte de nécessité. Chaque fois que Polanski entreprend d'adapter un monument littéraire, voilà, ça m'a paru significatif. Alors j'ajoute, et c'est un peu d'ailleurs une réponse à la question que Vincent a posée tout à l'heure à Jean-François, c'est ça, que dans le cadre de la rétrospective qui lui a été consacrée en 2017 à la Cinémathèque française, il y avait une section qui était carte blanche à Polanski, où il devait choisir un certain nombre de films pour qu'ils soient projetés. Et là, il y a 7 films qu'il a choisis, dont 3 britanniques, ce qui est quand même beaucoup sur 7 films. Et ces 3 films britanniques choisis par Polanski, c'était Hamlet de Laurence Olivier, Les Grandes Espérances de David Lean et 8 heures de sursis de Carol Reed. Film qu'il a découvert après la guerre cette fois, donc exactement dans cette fin des années 40 dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, il n'est plus enfermé dans le ghetto et il hante les salles de cinéma avec une passion grandissante et pour le cinéma et pour le théâtre. Hein, il est vraiment très jeune, post-adolescent, et il raconte dans l'autobiographie toujours qu'il a vu Hamlet à l'époque une 20aine de fois, le Hamlet de Laurence Olivier, et que ça lui a donné une passion pour Shakespeare. Il a lu à l'époque toutes les pièces de Shakespeare traduites en polonais. Donc, comme il fallait choisir, pour entrer un peu dans le détail des films britanniques de Polanski, et que 6 films, c'est beaucoup pour une communication de 45 minutes, eh bien, j'ai choisi de m'attarder sur 2 d'entre eux. Répulsion, parce que c'est le premier, et le premier plus généralement tourné à l'ouest, hein, hors de ce contexte polonais. Et Tess, parce que c'est le premier que j'ai vu. Non, ça, c'est pas une raison scientifique, même si c'est la vérité. Parce que c'est, à mon avis, après, on pourra en débattre, mais... la meilleure et de très loin des 3 adaptations de ces classiques de la littérature anglaise qu'il a adaptées. Alors, c'est aussi parce qu'il y a plus de points communs qu'il n'y paraît au premier abord entre Répulsion et Tess. Puis après, vous verrez que si j'arrive à la fin de ma communication, il y aura même un moyen autre de relier ces 2 films. Mais même de manière très superficielle, au fond, on peut considérer que dans les 2 cas, on a affaire... c'est vrai qu'à première vue, tous les opposent, et notamment le traitement de l'espace, hein, puisque d'un côté, il y a ce confinement, ce huis clos de répulsion, et que quand on songe à Tess, on a immédiatement en mémoire les paysages extrêmement amples et très divers que traverse l'héroïne au fur et à mesure de son calvaire. Donc, apparemment, en tout cas dans le traitement de l'espace, une grande différence. Mais au fond, l'héroïne, dans les 2 cas, c'est une très jeune et très jolie fille, très sérieuse, très silencieuse, très indépendante, très solitaire, victime des hommes et qui finalement deviendra une meurtrière. Il y a dans ce parcours de ces 2 personnages féminins, moi qui ai revu les films là, à très peu d'intervalle, quelque chose de frappant. Alors, je commence avec Répulsion. Je pourrais en parler là aussi très longuement, mais vous avez faim, moi aussi, donc je vais aller vite. Et je vais faire juste quelques remarques qui sont liées au sujet qui nous réunit, c'est-à-dire Répulsion comme premier film britannique de Polanski et plus largement comme premier film occidental de Polanski, enfin tourné à l'Ouest. Je regarde s'il y a des jeunes, mais oui, il y a des jeunes, même Hélène, jeune. Voilà, à l'époque où cette division Ouest-Est avait un sens, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, avait un sens très particulier. Donc, première remarque, c'est un film qui est tourné en Angleterre, qui est tourné en anglais, mais qui est coécrit avec Gérard Brach, donc avec un Français, et dont les deux principales interprètes, Catherine Deneuve et Yvonne Furneaux, sont également françaises. Dans le film, ce sont deux sœurs, Carole et Hélène, qui sont présentées comme belges, même si d'ailleurs rien dans le film n'explique pourquoi elles ont quitté la Belgique et pourquoi elles se sont installées à Londres. Et d'ailleurs, dans le film, lorsqu'elles sont en tête-à-tête toutes les deux, elles parlent anglais de manière absolument naturelle. Hein. À l'époque, ça ne posait sans doute pas du tout de problème de crédibilité que de voir deux Belges installés à Londres se demander de leur passer réciproquement le beurre en anglais. Bon. Donc, deux interprètes françaises. Alors, ça n'est pas un choix, c'est pas le premier choix de Polanski, qui au début cherche une interprète anglaise pour interpréter Carole. Il a d'ailleurs pensé par exemple à Francesca Annis, qu'il prendra beaucoup plus tard pour incarner Lady Macbeth. Bon, elle refuse de tourner nue, Deneuve refusera aussi un peu, puis finira quand même par accepter de porter une chemise de nuit avec rien dessous. Bon, ouais, c'est pas son premier choix, mais le fait est, quand on voit le film, que comme c'est une étrangère qui interprète Carole, ça devient une donnée essentielle de ce sentiment d'étrangeté, de distance entre l'héroïne et l'univers qui l'entoure. Et elle reflète très exactement la situation de Polanski, c'est-à-dire qu'elle est elle-même émigrée, enfin voilà, déplacée sur ce territoire britannique et plongée dans un univers qui ne lui est pas familier. Et finalement, c'est le même sujet que dans Le Locataire, hein. Il y a énormément de points communs entre les deux films. Voilà, un critique avait dit d'ailleurs à propos du Locataire, même sentiment d'étrangeté, d'exclusion, d'hostilité. De la ville dans laquelle le personnage s'implante et qui va le conduire à des hallucinations et des scènes très violentes. Un critique pour Le Locataire avait dit c'est un remake de Répulsion et on préférait Catherine Deneuve dans le rôle. Hein. Bon, chacun ses goûts après. Donc voilà, première remarque, une étrangeté, un statut d'étranger du personnage et de l'actrice qui vient renforcer le caractère extrêmement angoissant de sa perception du monde extérieur. Deuxième remarque, bon, là, ce sont des choses que vous connaissez par cœur, donc je vais très vite. La question de la frontière dans le film, elle est matérialisée constamment et elle est représentée par les limites de l'appartement. Et bon, il y a une hantise de la pénétration à tous les sens du terme dans le film. Hein, c'est parce qu'il a enfoncé sa porte que Carole va assassiner Colin, son soupirant. Et toutes les hallucinations que vous avez sans doute en mémoire et qui viennent scander disons la descente vers la folie la plus déchaînée de Carole, toutes ces hallucinations portent sur la question de la dissolution de la frontière. Il y a la porte de sa chambre, dont elle a l'impression qu'on essaye de la forcer. Il y a les murs qui se fissurent brutalement, ces murs de l'appartement qui se couvrent de fissures. Il y a les parois toujours de l'appartement qui deviennent molles sous ses mains au point qu'elle peut y imprimer ses paumes comme dans de la glaise. Et puis il y a évidemment la dernière de ces hallucinations, peut-être la plus frappante, où des mains étrangères et menaçantes sortent des murs du couloir pour essayer de la caresser et de la saisir. Tout cela est alterné avec des séquences de cauchemars qui sont des séquences de viol. Donc le viol de l'intimité est sexuel et topographique, c'est vraiment central dans le film. Et ça me paraît évidemment à mettre en relation avec la situation du cinéaste travaillant pour la première fois dans un territoire étranger et voilà, se hasardant finalement hors de ses frontières, des frontières de son pays d'origine. Troisième remarque, j'ai vu, en voyant le film attentivement, un clin d'œil étrange, peut-être politique, dans le décor de cet appartement qui nous est montré au début de manière assez... histoire de documenter la vie de ces deux sœurs qui sont en colocation, enfin, qui vivent ensemble. Comme elles sont francophones, il y a plusieurs détails dans le décor qui sont là pour signifier cet attachement à la Belgique, en l'occurrence, mais enfin, cette francophonie. On voit par exemple un 33 tours d'Edith Piaf. On voit un numéro de Marie-Claire. Mais on voit aussi, et alors ça m'a paru très étrange, j'ai repassé plusieurs fois la scène, un roman qui est en fait un roman allemand, mais dont l'exemplaire qu'on nous montre est la version française et dont le titre est « À l'Ouest, rien de nouveau ». Alors, qu'est-ce que ce roman de remarque fait sur la table du salon de Carole et Hélène ? Il n'y a pas de réponse à ça. La seule hypothèse que j'ai, c'est que Polanski parce que ça ne peut pas non plus être un hasard. Enfin, il y a quand même assez peu d'objets qui soient comme ça désignés dans le film. Donc, c'est que ça serait, mais c'est pure interprétation, une sorte de clin d'œil de Polanski. Un clin d'œil, ça va vraiment très vite et qu'il ne pouvait peut-être pas soupçonner le succès international du film, qui serait donc vu par des Français susceptibles de déchiffrer le titre du roman en question, que ça serait en fait une sorte de pied de nez et une manière de dire, bah, moi, le petit Polak formé à l'école de Lodz, en termes d'innovation, en tout cas esthétique, j'ai rien à apprendre de l'Ouest. À l'Ouest, rien de nouveau. Moi, j'ai vu cette espèce de... Bon, mais voilà, j'en prends toute l'entière responsabilité. Quatrième et dernière remarque. Je me suis demandé aussi, en revoyant Répulsion, à quel cinéaste britannique Polanski songeait en tournant son premier film en Grande-Bretagne, c'est-à-dire, étant donné l'ego quand même... C'est un cinéaste, c'est normal, mais enfin, celui de Polanski surdimensionné, avec lesquels se mesurer, c'est-à-dire quelles étaient ses références et ses, au fond, rivaux. Alors, il se trouve qu'une des très rares séquences dialoguées, et assez longuement dialoguées de Répulsion, c'est avec une de ses collègues du Salon de beauté où elle travaille, entre Carole et une collègue, et sa collègue lui raconte qu'elle est allée au cinéma la veille avec son fiancé et qu'elle a vu La ruée vers l'or. Alors, La ruée vers l'or, mais d'ailleurs, le titre n'est pas cité, mais enfin, elle lui raconte longuement la scène du film où il danse des petits pains, etc. Donc, on comprend très bien que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle raconte longuement ce film, et là, on peut se demander pourquoi, dans les années 60, enfin, je suis sûre que les films de Chaplin sont projetés tout le temps, partout dans le monde, mais pourquoi mentionner longuement ce film ? Alors, certainement parce que dans la même période de l'après-guerre, Polanski a découvert, en même temps que ces grands films anglais que j'ai mentionnés, et bien aussi ce qu'il cite dans son autobiographie comme les comédies burlesques américaines, il parle surtout de Laurel et Hardy, il ne mentionne d'ailleurs pas Chaplin, mais on peut imaginer que ça a participé aussi de son initiation à ce cinéma américain à la fin des années 40. Mais je me suis demandé si, au fond, ce cinéaste, Chaplin, cinéaste d'origine britannique, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, on a parlé tout à l'heure du visa pour Hollywood pour un certain nombre de cinéastes qui passent par la Grande-Bretagne, ne dissimulait pas, en même temps qu'elle le révélait, un autre cinéaste britannique, qui lui aussi a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, et qui n'est pas du tout Chaplin, mais qui serait Hitchcock et... C'est peut-être pas la peine, parce que c'est vraiment quelques images. Alors, je pars du principe que vous connaissez tous par cœur le générique de Vertigo, donc je ne vous le repasse pas, comme ça, ça vous fait gagner du temps, mais je vous montre quelques images du générique de Répulsion. Faite. Hein. Voilà, il me semble qu'avec ça, hein, même pas besoin d'insister. Alors, cette référence à Hitchcock dans Répulsion, grâce à David qui m'a prêté un numéro de contrebande consacré à Polanski, j'ai vu un article de Youri Deschamps qui parle de la référence cinéphilique ludiquement hitchcockienne dans Répulsion alors pas à Vertigo cette fois, mais à Psycho, avec une grande insistance sur les trous d'évacuation du lavabo et de la baignoire dans la salle de bain des deux sœurs. Baignoire où va finir le cadavre du soupirant assassiné. Mais il y a toutes sortes, à mon avis, d'autres clins d'œil hitchcockiens dans Répulsion. Par exemple, il y a un running gag, enfin une insistance avec des jeux de mots très lourds et très grivois sur la tour de Pise. La sœur de Carole part avec son amant en Italie. Alors, tu vas me montrer la tour de Pise, etc. Alors moi, je pensais à la Coit Tower dans Vertigo et au double sens aussi qu'il peut y avoir quand Scotty dit à Madeleine que c'est la première fois que la Coit Tower lui sert à quelque chose, parce que c'est comme ça qu'elle a retrouvé le chemin de sa maison. Bon, et puis, on peut quand même souligner que dans les deux cas, Vertigo et Répulsion, on a affaire à un personnage féminin qui souffre de folie, même si dans Vertigo, cette folie est feinte. Voilà, et il y a d'autres artifices dans Répulsion qui me semblent aussi être vraiment des emprunts, mais peut-être d'autres cinéastes les avaient utilisés, mais à Hitchcock, par exemple, l'assassinat de Colin, le soupirant, est filmé en caméra subjective, alors que le personnage regarde à l'extérieur de l'appartement par le hutton, et qu'elle le massacre, alors spoiler aussi, désolé, le massacre avec un chandelier à l'arrière du crâne. Et en fait, c'est tourné en caméra subjective, mais Polanski a dû faire construire un œilleton démesuré pour pouvoir filmer le plan. Et puis les gouttes de sang qu'on aperçoit sur la porte au fur et à mesure que le personnage tombe, là aussi, il a fallu faire des énormes projections de sang. Moi, je me suis dit que c'était peut-être un emprunt, par exemple, au revolver qu'on voit dans la dernière séquence de Spellbound, un revolver démesuré, là aussi, pour obtenir cet effet de grossissement de l'objet. Et puis, bon, dernière peut-être preuve de cette filiation ou de cette continuité, donc continuité qui remonterait à Vertigo, Psycho. Alors Psycho, c'est vrai qu'en plus le noir et blanc et le thème de la folie, cette fois réelle, hein, du personnage principal, crée un lien de parenté encore plus fort avec Répulsion. Mais on pourrait ajouter, disons, un dernier film dans cette série. C'est le seul film que Hitchcock reviendra tourner en Angleterre. En 72, dont le titre même s'inscrirait dans cette continuité, parce que Vertigo, Psycho, Répulsion, Frenzy, il y a vraiment quelque chose qui se dessine d'une cohérence. Et par ailleurs, donc après 30 ans d'exil aux États-Unis, Hitchcock revient à Londres pour tourner Frenzy, avec le même chef opérateur que celui de Répulsion, Gilbert Taylor, et avec, comme acteur principal, John Finch, qui vient de jouer Macbeth pour Polanski. Alors j'en arrive maintenant à Tess. Alors, donc Tess 1979, quelques mots du contexte. Donc à l'époque, Polanski essaye désespérément de monter Pirate, hein, il a beaucoup de mal avec ça. Juste avant son assassinat, avant de quitter Londres, Sharon Tate lui a fait découvrir le roman de Thomas Hardy. Elle l'a laissé dans leur chambre en lui disant « ce livre est extraordinaire, ça pourrait faire un film ». Et donc, il a lu Tess et il a continué d'y songer pendant toute cette décennie, à adapter le roman de Thomas Hardy. Donc, il a toutes les difficultés du monde à monter Pirate. Il se rend à Munich pour une mise en scène de Rigoletto à l'opéra et il rencontre là une très jeune Allemande, âgée de 15 ans, Nastassia Kinski, qui a déjà tourné avec Wenders. Et puis, il retourne aux États-Unis parce qu'il doit travailler sur un polar et qu'il veut se documenter sur la vie des commissariats, notamment à New York. Enfin, il est à Los Angeles et c'est là qu'a lieu... ça, je n'y reviens pas, hein, parce que vraiment, on en a marre, puis vous la connaissez par cœur, l'affaire Samantha Gamer, c'est-à-dire ce viol sur mineur dont il est reconnu coupable. Et puis, après avoir purgé cette peine de prison, il comprend qu'il risque d'être de nouveau incarcéré et il s'enfuit à la fin du mois de janvier 1978. Je cite toujours l'autobiographie, il prend d'abord un avion pour Londres. Et une fois arrivé à Londres, je le cite, « quelque chose clochait, je ne me sentais toujours pas en sécurité. Le soir même, je pris l'avion pour Paris. » Donc, voilà, bref halte à Londres et départ pour Paris. Et une fois qu'il arrive à Paris, il retrouve son vieil ami Claude Berry, avec qui ce sujet de l'adaptation de Tess avait été très régulièrement évoqué à chacune de leurs rencontres. Il arrive à Paris, il n'a donc pas d'argent, il est en fuite. Et il retrouve Berry, qui lui dit « Alors, quand est-ce qu'on fait Tess d'Urbainville ?» Alors, Tess, c'est une coproduction franco-anglaise. La grande majorité des comédiens sont anglais, à l'exception de Nastassia Kinski. Et là, je fais de nouveau le lien avec Répulsion, puisque je pense que c'est aussi un point commun entre les deux films, que ce sentiment de différence, d'étrangeté des deux personnages par rapport aux autres. Hein. C'est déjà vrai du roman de Thomas Hardy. Tess, elle est différente. Elle a une sorte de qualité particulière qui la désigne d'emblée comme héroïne. Donc, une actrice principale allemande, mais le reste des comédiens sont anglais. Et l'équipe technique, elle aussi, est dans sa grande majorité anglaise. Alors, je pense par exemple au chef opérateur, Geoffrey Hemsworth, qui, malheureusement, meurt brutalement d'un infarctus au bout de quelques semaines de tournage et est remplacé au pied levé par un Français. Mais voilà, la grande majorité de l'équipe technique est anglaise. Pourquoi est-ce que le film n'est pas tourné en Grande-Bretagne? Parce que ça, ce que dit Polanski tout de suite dans l'autobiographie, c'est que la décision est prise dès l'origine de tourner le film en France. C'est une évidence, ils ne savent toujours pas, il n'y a pas de scénario, ils ne savent rien quand ils prennent la décision en janvier 78 de monter le film, ils ne savent rien de ce que sera le projet. Nous n'avions encore ni script, ni équipe, ni distribution, ni même une idée de l'endroit où le film serait tourné, sinon qu'il fallait que ce fût en France, de préférence à l'Angleterre, où je risquais l'extradition. Donc c'est uniquement pour des raisons voilà, de situation personnelle et juridique que le film est tourné. Donc, en Normandie, en grande partie, pas très loin d'ici, dans le Cotentin, en Bretagne en partie aussi. Et je le signale quand même au passage, la séquence d'ouverture est filmée à Aumonville-la-Rogue, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres d'Auderville, où Truffaut, 7 ans plus tôt, a aussi déplacé le décor des deux Anglaises, supposées se situer au Pays de Galles. Alors, avant d'en regarder quelques brefs extraits, très brefs, je les ai vraiment resserrés au maximum, rappelle que les trois films adaptés d'œuvres littéraires, de grandes œuvres littéraires anglaises par Polanski, sont, mais comme beaucoup d'autres films de son œuvre après tout, des films qui tournent essentiellement autour de la question de la culpabilité des personnages, hein, de la faute et de la sanction finale. Alors, je vais vous montrer, en fait, ça ne sera peut-être pas la peine même de rallumer, parce que, enfin, on va voir, hein, mais parce que ce sont trois, je vais peut-être même les montrer, je pars du principe que vous connaissez aussi, Thèse par cœur. Donc voilà le supposé cousin, riche. Donc, première scène dite de la forêt de la chasse, dont exprès je ne dis pas ce qui s'y passe parce que je vous laisse juger. C'est une des questions que pose l'adaptation de Polanski. Deuxième extrait, un peu plus tard dans le film, donc Tess rencontre Angel qui tombe amoureux d'elle, qui l'épouse, à qui elle n'a pas réussi, bien qu'elle ait essayé à plusieurs reprises de révéler qu'elle n'est plus vierge, et là je dis aussi pour les jeunes générations à quel point c'était très très grave dans l'Angleterre victorienne, donc qui l'épouse, et le soir de leur noces, voilà, c'est donc le double standard, la représentation du double standard que vous allez voir maintenant.
Beautiful you are. Come and see. I have a confession to make, my love.
You have something to confess.
Why not? You think far too highly of me. Listen. I want you to forgive me and not be angry with me for failing to tell you earlier. I said nothing for fear of losing you. I shall be brief, darling. Not long before we met, I lived in London for a time. There, I met a woman older than myself. Ours was a false relationship. A sad one. It was all over in a few weeks. That's all there is to tell. Do you forgive me?
Angel. Oh, Angel.
You're so utterly good and gentle, I was mad to fear your resentment.
I have a confession too, Angel. Something of the same kind.
Well, tell me at table. We'll talk over supper. I'm hungry, aren't you?
I told you. I have a confession like your own.
What confession?
I shall be just as brave. His name is d'Urberville, like mine. Alexander d'Urberville. His family bought the title. Their real name is Stoke. It was fate that drove me to work for false relations as a way of helping my own folk to live. Alexander took advantage of me, relying on his strength and my fear. I became his mistress in despair, without love. Like yours, my sad union ended after a few weeks. We bore a child, which died very young. My life was in ruins till the day I met you.
Je pense qu'il n'y a même pas besoin de montrer la suite pour comprendre que la confession de Tess ne sera pas reçue du tout de la même manière que celle de son mari. Et le tout dernier, très court extrait que je voudrais montrer, qui sont les toutes dernières images du film, donc l'arrestation de Tess, qui entre-temps a tué donc, son cousin, enfin l'homme qui avait, comme elle le dit ici, abusé d'elle dans la première scène que je vous ai montrée.
She's sleeping. Just a little longer.
Have they come for me? I am ready.
Alors, je vais assez vite parce qu'on a très peu de temps. Donc, dans le roman de Thomas Hardy, la scène, je pense qu'on est tous d'accord pour voir qu'on a assisté à une scène de viol. Hein. C'est assez... Bon, voilà, même s'il y a une ébauche de consentement. Tess est une femme très sensuelle, c'est déjà vrai dans le texte, dans le roman de Hardy. Il me semble que la scène laisse assez peu de place au doute. Or, chez Hardy, la scène n'est pas montrée. Elle se trouve entre la fin de la première et le début de la deuxième partie, dans un blanc du texte. Hein, et on comprend ce qui s'y passe parce que la première partie s'appelle Maiden et la deuxième No More Maiden. Donc on comprend bien ce qui s'est joué entre eux. Mais le texte, au lieu de raconter ce qui se passe, le narrateur prend la parole et dit pourquoi fallait-il que ce beau tissu féminin, aussi délicat que le tulle, encore pratiquement blanc comme neige, soit destiné à recevoir une empreinte aussi grossière. Enfin, une espèce de déclinaison comme ça, très métaphorique sur ce qui s'est passé. Donc on ne sait jamais dans le roman si Tess a été violée ou si elle a consenti à la relation sexuelle avec Alec d'Urberville. On le sait d'autant moins que lorsqu'elle écrit à Angel avant leur mariage pour lui dire la vérité, lettre qui n'arrivera jamais à destination parce que, comme je vous le rappelle, elle est glissée sous le tapis par hasard, sous le tapis de la chambre d'Angel, on n'a pas accès au texte. On ne sait pas non plus ce qu'elle dit à Angel dans le roman, pas plus que dans le film. Et enfin, lors de la soirée des noces, dans le roman, même technique que pour la scène de la forêt de la chasse, on est à la charnière entre la quatrième et la cinquième phase, quatrième qui s'appelle les conséquences et la cinquième, la femme paye. Et la quatrième phase se termine ainsi. Elle commença l'histoire de sa relation avec Alec d'Urberville et de ses conséquences à mi-voix sans se dérober. Début de la cinquième phase, elle avait achevé son récit. Et donc, on n'a pas non plus accès à sa version de l'histoire par le récit qu'elle en fait à Angel. Donc, on ne saura jamais en quoi consistait cette confession. Et dans le roman, on ne peut pas statuer sur est-ce qu'elle était victime ? Et c'est une des forces, d'ailleurs, du roman, que de lui laisser cette part possible d'autonomie, parce qu'au fond, ce à quoi elle n'a pas consenti, et ça c'est certain, c'est à une relation, à une liaison suivie avec Alec d'Urberville, à une liaison sans amour. Donc elle est victime dans le roman, certes, elle est victime de ses parents qui l'ont envoyée, surtout la mère, en assez bonne connaissance de cause chez ses cousins riches, en se disant que grâce à sa beauté, peut-être la famille se porterait mieux financièrement. Et elle est victime ensuite de la morale victorienne qui récuse effectivement ce traitement égalitaire des hommes et des femmes face à la question de la virginité avant le mariage. Donc, chez Polanski, on voit que lui prend parti. Il prend parti en filmant le viol, d'une part, et dans le récit que fait ensuite Tess à Angel, il dit « It took advantage of me », c'est-à-dire il a abusé de moi, il explicite l'abus sexuel. Et du coup, alors est-ce que c'est une nécessité propre au cinéma de montrer et de dire, est-ce que ça aurait été peut-être difficile de ne pas davantage préciser les choses que dans le roman, je n'en sais rien, mais du coup l'ambiguïté, l'opacité, l'énigmaticité dans le film, elle est plutôt du côté du personnage d'Angel et donc de son retour vers Tess à la fin, et aussi du côté du personnage d'Alec d'ailleurs, qui est la victime, alors lui indiscutable, du geste meurtrier de Tess à la fin. Alors, je vais juste faire 2-3 remarques parce qu'il n'en a pas beaucoup de temps. D'abord, pour souligner la récurrence du viol dans l'œuvre de Polanski, bien avant l'affaire Samantha Gamer, c'est ça qui est frappant, puisqu'on trouve des viols dans Répulsion, fantasmés et réels, puisqu'il y a le harcèlement du propriétaire sur Carole, qui est aussi un cas de... Bon, il ne va pas jusqu'au bout, elle le tue avant. Enfin, voilà. Dans Le bal des vampires, c'est de manière plus métaphorique, mais enfin, tout de même, la morsure, le kidnapping du personnage, j'ai oublié son prénom, incarné par Sharon Tate. Bon, dans Macbeth, où la scène de l'assassinat dans la famille Macduff, on aperçoit un viol. Dans Chinatown, où ça n'est pas montré, mais où c'est évidemment au centre de l'intrigue aussi. Donc tout ça avant l'inculpation de l'affaire Gaynor. La particularité de Tess, c'est qu'il le tourne après. Et que donc cette question du viol, elle est devenue centrale, et elle est restée, on l'a vu récemment, dans sa vie. Et c'est très difficile de ne pas établir des parallèles, quand on voit les extraits que j'ai montrés, avec la vie de Polanski, sa vie récente, en tout cas lorsqu'il tourne ce film, depuis la scène du viol jusqu'à l'arrestation, hein, et la fin, avec les policiers qui précèdent les héros. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas faire référence à son cas. Et au fond, alors c'est pour ça que j'avais dit double standard, mais j'ai pas eu le temps de développer tout ça, c'est qu'il me semble que Polanski se vit lui-même en victime du double standard. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, corroboré par la presse, hein, si on regarde ce qu'a été la presse autour de sa vie et de son œuvre, il a l'impression qu'on ne le juge jamais de manière équitable. qu'on lui fait payer le fait qu'il est polonais, qu'il est juif, qu'il est déplacé, qu'il est immigré, et surtout qu'on ne juge pas son œuvre sans faire référence à sa vie. C'est-à-dire que je pense qu'il a ce sentiment que la presse ne peut pas faire la distinction entre les péripéties de sa vie personnelle et son œuvre. Lorsque Macbeth sort, tout le monde dit, évidemment, il fait Macbeth, alors que lui dit, je suis allé chercher Shakespeare parce que je pensais que j'aurais la paix. Il dirait, non, la caution, etc. Bon, effectivement, quand on voit Macbeth, c'est un film très violent, etc. Donc, voilà, c'était ça que j'entendais par double standard, puis je n'ai pas vraiment eu le temps de développer. Et donc, je voudrais juste conclure en finissant de rapprocher Répulsion de Tess. Autour de cette question du rapport avec le cinéma britannique et du cinéma britannique comme étape avant une carrière hollywoodienne. Parce que dans Répulsion, il me semble qu'il y a vraiment à l'horizon, peut-être pas conscient, mais à l'horizon de l'élaboration du film, cette carrière américaine d'Hitchcock, hein, que c'est peut-être à ça, cet horizon-là, que songe Polanski. Et en revanche, quand on voit la fin de Tess, qui est ce grand mélodrame classique qui... fait référence aussi à tout ce cinéma hollywoodien, toutes ces adaptations littéraires produites à Hollywood. Il y a vraiment quelque chose de très mélancolique que dégage le film dans son ensemble lorsqu'on le revoit aujourd'hui. Et je me demande si cette mélancolie diffuse qui émane du film ne peut pas être comprise comme un adieu plus ou moins lucide de Polanski à toute carrière américaine possible. Et les dernières images notamment qu'on a vues, c'est-à-dire ces ruines de Stonehenge reconstituées dans le nord de Paris, près de Beauvais, hein, c'est du carton-pâte total, et cette silhouette condamnée de l'héroïne qui s'efface dans la brume, ça ne serait pas, et l'aube se lève, hein, on vient de voir le soleil se lever entre les colonnes de Stonehenge, ce ne serait pas, au fond, pour Polanski, la matérialisation de ce qu'il conçoit comme l'aube d'une nouvelle carrière et qui sera désormais une carrière loin d'Hollywood et même loin de l'Angleterre, puisque si Tess est tournée en France, c'est pour cette raison. Donc voilà, cette dernière séquence qui s'ouvre avec Tess dans la vie et l'œuvre de l'éternel exilé, comme je l'ai rappelé pour commencer, qui ne tournera plus de films américains que ailleurs, voire Carnage, hein, l'appartement de Brooklyn reconstitué en studio, ou L'île du Ghostwriter, qui est tournée, je crois, en Allemagne ou au Danemark, enfin, voilà, sur un autre continent. Je vous remercie. Thank you.